Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur nos ondes. Vous êtes avec moi Alexis, je serai votre professeur, non pas en ligne mais sur les ondes. Vous êtes sur Radio Soleil 87.4 et vous êtes aussi sur RIL. Il faut que je regarde effectivement RIL dans le nord, c'est 96.2. Vous êtes effectivement 97.0 dans l'ouest, sud-ouest 98.9. Donc ça fait beaucoup, hein. Donc allez taper sur RIL. Oh Yann, je suis désolé. Bon allez, je continue. Sinon, effectivement, 99.8 dans le Grand Sud, 99.6 dans l'Est, 98.1. Donc, je fais de gros bisous à nos élèves hein, qui sont à l'autre bout des ondes. Un gros bisou aussi à Simi qui s'occupe de beaucoup de choses qu'on ne voit pas, effectivement, qui fait du télétravail, bien sûr. Et bien sûr, un grand coucou à Yann RIL. Donc, on est content de retrouver nos élèves de Radio Soleil et de RIL et de tous ceux qui sont autour de nous. Donc on a dû un peu s'adapter parce qu'au départ on voulait faire un cours pour les troisièmes et à la demande effectivement de ceux qui sont à notre écoute, on a aussi été à leur écoute, on va faire un cours de quatrième qui portera aujourd'hui sur les Françaises et les Français dans la Révolution française. Donc au début je voulais faire un cours sur Napoléon puisque au niveau du programme autour de moi les collègues sont à cette étape là, mais on s'est dit effectivement si on fait le cours quasiment pour plus d'élèves, il est préférable de revenir sur la Révolution française. Donc, on donne la Révolution. Ça sera aujourd'hui sur la Révolution française. Bon, dans ma classe virtuelle, dans ma tête, on aura beaucoup d'élèves. Hein, donc là, ça a augmenté. Hein. Bon, on aura par exemple Riziki, qui est pas loin, qui est assez timide dans son coin, mais qui écoute et qui est sérieuse. On a Nathan, qui est un peu au fond, mais qui écoute également. On a Kenza, qui bouge un petit peu de temps en temps. On a Marie, oui, qui a son petit caractère. Éléonore, Vincent, on en a un qui est assez rigolo puisque bon il n'est pas dans ma classe mais il est à la radio, c'est Bismarck Ethan, donc on donne ce surnom, c'est effectivement il aime beaucoup l'histoire et voilà. Donc le cours d'aujourd'hui, les Françaises et les Français dans la Révolution française. Bon, avant d'attaquer la Révolution française, j'aimerais effectivement qu'on parle un peu des origines. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hein. On va parler des origines de la Révolution française et pas commencer directement là-dessus. Donc vous n'aurez pas comme si on va faire un cours d'histoire, donc on ne fera pas du genre « le roi était méchant, le peuple se révoltait ». Donc ça, ce n'est pas de l'histoire. Donc on parle de révolution. Bon, déjà, le mot « révolution », on ne va pas revenir sur l'étymologie « évolution ». Retour en arrière, on va plutôt en histoire, on va plutôt parler de rupture. De rupture, on va passer l'ancien régime, d'une époque ancienne, à ce qu'on appelle l'époque contemporaine. Après, à pas confondre dans une histoire, effectivement, on va pas parler d'époque moderne. Aujourd'hui, on dit c'est moderne, etc. Mais en histoire, quand on va parler effectivement des temps modernes, ça a un sens et une époque précise. Donc, on va parler plutôt de passage à l'époque contemporaine. La révolution marque une rupture. Mais cette révolution française n'est pas la première révolution. Si on prend un exemple, il y a d'autres pays qui, comme la plus connue, on va parler du Royaume-Uni. Avec la révolution anglaise, par exemple. Le Royaume-Uni, en 1689, donc un siècle avant la révolution française, avait déjà terminé sa révolution. J'ai oublié de dire, effectivement, les marmailles, ils ont tiré sur de case, bien sûr. Donc, ça paraît logique. Donc, un siècle avant, si on prend la révolution anglaise, on va faire un petit topo rapide. Comme ça, on va dire, tiens, il n'y a pas eu que la révolution française. Hein. Les Anglais, par exemple, en 1649, ils ont fait une première partie de leur révolution. Ils ont, après une guerre civile, ils ont arrêté le roi, Charles Ier, et ils l'ont décapité. C'est-à-dire, ils lui ont coupé la tête, ce qui n'est pas bien, etc. Je ne rentre pas là-dedans. Hein. Donc, ils ont mis en place une république, juste après. République, dans le sens, effectivement, c'est un régime où il n'y a pas de roi. Donc, en France, aujourd'hui, on est une république parce qu'il n'y a pas de roi. Et ils ont mis en place, on sort de président de la République, Cromwell, qui est devenu leur protecteur, que c'était son titre. Bon, Cromwell, qui effectivement avait une vision du protestantisme une vision de la religion effectivement assez autoritaire. Il a imposé sa religion à tout le monde. Et à la mort de Cromwell, les Anglais ont dit on en a assez, on revient à la monarchie. Donc ils ont laissé tomber la République, qui était une République, on va dire, religieuse. Hein, et ils sont revenus effectivement à la monarchie. Mais ils ont dit attention là, on va faire attention, on va prendre un texte, l'habeas corpus. C'est en 1679, c'est le roi ne peut pas mettre n'importe qui en prison. Ils pensaient qu'ils étaient protégés. Et c'est bon. Mais plus tard, le roi Jacques II, qui veut revenir à une monarchie absolue, puisqu'ils ne veulent pas, c'était une monarchie, pas, ils veulent changer la donne. Et là, ils ont dit, hop, 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 on n'est pas d'accord. Donc, une deuxième, on va dire, révolte, ou deuxième guerre civile ou révolution, si vous voulez. Hein. Et là, ils chassent le roi, ils le virent, et ils mettent en place un nouveau roi. C'est la fille de Jacques II, Marie, qui prend le pouvoir, et c'est son mari, Guillaume, qui devient roi. Et cette fois-ci, ils font, hop, on va prendre un nouveau texte, 1689. The Bill of Rights, la déclaration des droits. Ouais, mon anglais est bon, hein. Hein, Marmaille, mon anglais est bon. The Bill of Rights. Moi, je suis désolé, collègue d'anglais. Donc, The Bill of Rights, ou déclaration des droits. Et cette fois-ci, ils vont mettre en place un système où le roi perd beaucoup de pouvoir, où on a un parlement avec ce qui est le fonctionnement du Royaume-Uni aujourd'hui. Le roi nomme le premier ministre, le premier ministre gouverne et les lois sont votées au Parlement. Donc le système anglais tel qu'il existe aujourd'hui, il date de 1689, où ils ont terminé la Révolution. Et aujourd'hui, la grande différence, c'est que les femmes peuvent voter, les gens les plus pauvres peuvent voter, tous les citoyens britanniques peuvent voter, alors qu'à l'époque, seuls les plus riches votaient. Donc on a eu aussi une autre révolution, la révolution américaine. Donc, dans les origines de la Révolution aussi, la Révolution américaine, pareil, donc, nouvelle Révolution, on est juste à la veille de la Révolution française. 1776, le 4 juillet, c'est la fête nationale aux États-Unis aujourd'hui. C'est la déclaration d'indépendance des États-Unis qui entraîne la guerre contre le Royaume-Uni, ou l'Angleterre, le Royaume-Uni, et qui donnera en la suite qu'on connaît l'indépendance et la naissance des États-Unis d'Amérique. Si on veut repartir sur les origines également, hein, certains mettent comme les origines en histoire, il y a toujours les origines lointaines et les origines immédiates. Je simplifie bien sûr, hein, tous les historiens vont me dire oh là, un petit peu là, pas totalement d'accord avec vous, mais bon. Donc, les origines lointaines, on peut partir très loin, hein, sur les siècles des Lumières, avec les idées des siècles des Lumières. On parle le siècle des Lumières, puisqu'on est à l'époque des philosophes des Lumières, hein, donc on est dans plein 18e siècle, donc on a des philosophes comme Montesquieu, on a des philosophes comme Diderot. Bon, Voltaire, j'en dirai pas plus, parce que des collègues vont dire ouais, ça, il en a parler, non, j'en parlerai pas, vous inquiétez pas. Et je dirai pas plus. Donc, qui remettent en cause le système de l'époque? Remettent en cause le système de l'époque. On parle le siècle des Lumières parce qu'on part du principe qu'au Moyen-Âge, c'était le siècle de l'obscurantisme et que la réflexion, la raison va éclairer le monde. Et avec l'humanisme qui est passé avant, on met l'homme au centre et non plus Dieu au centre de la réflexion. Bon, je reviendrai là-dessus dans un autre cours, peut-être pour les cinquièmes. Hein. Penser que le Moyen-Âge, c'est le siècle de l'obscurantisme où il n'y avait rien, où il n'y avait pas de réflexion, où ils étaient tous complètement idiots, c'est une mauvaise vision du Moyen-Âge, puisque le Moyen-Âge a duré 1000 ans, et il y a eu de grands penseurs, d'excellentes réflexions. Donc, il faudrait revoir effectivement un peu là-dessus, puisque les collègues qui étudient le Moyen-Âge, les historiens et autres, ils vont pas être totalement d'accord là-dessus. Donc, et puis, il y a plusieurs périodes du Moyen-Âge, mais ça, on reverra peut-être dans le cours de 5e qu'il y aura pour demain. Donc, les philosophes de Lumière remettent en cause la monarchie absolue. La monarchie absolue, c'est le pouvoir, c'est effectivement un régime où il y a une monarchie, un roi, et où le pouvoir est contrôlé par personne. Le roi a, on simplifie en disant que le roi a tous les pouvoirs pour que les élèves comprennent, mais certains vont me dire, mais non, on ne sait pas totalement la définition, on ne va pas compliquer. Donc, et c'est une monarchie de droit divin. Ça veut dire que le pouvoir du roi vient de Dieu et non pas des hommes. Selon les philosophes de Lumière, ils veulent mettre en place un nouveau système où ce serait le peuple qui donne le pouvoir. Et donc, ça dirait, bon, ça y est, je commence à bafouiller. Ça voudrait dire que le pouvoir du roi viendrait du bas et non pas effectivement du ciel d'en haut. Donc, ils sont contre, ils remettent en cause la monarchie absolue. Je rappelle qu'à l'époque, à la veille de 1789, les Français sont dans une monarchie absolue. Ils sont contre aussi les privilèges. On a les trois ordres, hein, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Et le tiers-état représente la majorité de la population. Et le tiers-état, effectivement, ne possède pas de privilèges, notamment payer des impôts. Je rappelle que dans le tiers-état, vous avez une grande partie de la population, effectivement, sont les paysans et aussi les habitants. Certains habitants des villes sont pauvres, mais il ne faut pas oublier que très peu, mais un pourcentage très faible, mais du tiers-état est composé de la bourgeoisie, notamment la bourgeoisie marchande, qui est extrêmement riches, qui possèdent effectivement, qui possèdent les bateaux qui vont faire le commerce dans le monde entier, qui possèdent également les banques et qui prêtent de l'argent à l'État. Donc, mais ils ont un souci, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir, puisque le pouvoir est réservé aux nobles. Et ils sont contre aussi l'Église catholique. Donc, ils vont remettre en cause tout ça. Donc, ces idées ont circulé pendant plus d'un siècle, hein, à travers les journaux, à travers l'encyclopédie, à travers les cafés aussi, puisque les cafés, c'est une nouveauté. Les gens se retrouvaient dans un café pour pouvoir prendre une tasse de café. Donc là, ils commençaient à discuter. L'opinion publique se diffuse. En partant du principe, bien sûr, qu'à l'époque, la majorité des gens ne savaient pas lire et écrire, mais il y avait quand même des images où on pouvait, souvent des caricatures, qui étaient plus simples. Il y a aussi l'invention de l'imprimerie. Bon, on parle d'invention d'imprimerie par Gutenberg. On dirait plus un perfectionnement du système d'imprimerie, puisque les Chinois connaissaient déjà l'imprimerie, et on a repris les mêmes idées, et on a modernisé le système. Voilà, donc il y avait tout un élément, l'opinion publique, tout ça était prêt avec des idées nouvelles pour pouvoir aller vers une révolution. Ce qui va changer la donne, bien sûr, on va parler maintenant des causes un peu plus directes, immédiates si vous voulez, c'est la crise. Il y a eu des crises à la veille de 1789. Donc à la veille de 1789, on a les idées des Lumières qui ont circulé un petit peu partout. Mais la France est en difficulté financière aussi. Difficulté financière, donc le royaume est en difficulté financière. Vous voyez, avoir des dettes, ce n'est pas nouveau. Les pays ont toujours eu des dettes. Louis XIV, qui faisait beaucoup la guerre, avait des dettes. Et Louis XVI, à l'époque où Louis XVI effectivement est au pouvoir, à l'époque qui nous intéresse, à la veille de 1789, on va partir à 1788 si vous voulez, la France est endettée. Et elle a beaucoup de dépenses et elle a du mal effectivement à combler ses dépenses. On a aussi, dans les difficultés de la veille 1789, la bourgeoisie que je vous ai dit tout à l'heure, qui appartient au tiers-état, qui voudrait accéder au pouvoir, mais comme ils ne sont pas nobles, ils ne peuvent pas y accéder et ils aimeraient bien effectivement un changement. On a aussi dans le tiers-état les paysans qui ont assez d'être payés des impôts à l'église, payés des impôts à l'état, payés des impôts effectivement au seigneur. Je ne reviens pas sur les cours de cinquième pour certains, les banalités, des choses comme ça ou autres. Donc, et ce qui va énormément changer la donne, c'est qu'en 1788, il y a une très mauvaise récolte. Très mauvaise récolte. À l'époque, quand il y avait une mauvaise récolte, ça avait des conséquences immédiatement sur l'année suivante. On n'allait pas, il n'y avait pas de boîte de conserve, il n'y avait pas des choses emballées, etc. Donc, ça veut dire que du moment que la récolte était mauvaise, il y avait forcément une conséquence sur l'année suivante. Donc en 1788, il y a une très mauvaise récolte en France et il va avoir des conséquences sur l'année 1789. Et souvent, on a effectivement un roi, Louis XVI, qui est marié à Marie-Antoinette. On parlera peut-être un petit peu de Marie-Antoinette alors. Bon, j'imagine la belle photo, c'est une peinture, puisque j'aime bien la peinture qui se trouve au château de Versailles. Je trouve qu'elle est magnifique, mais bon, j'en parlerai un peu plus la prochaine fois. Je me calme. Je reviens sur notre cours d'aujourd'hui. Louis XVI, qui est roi de France, mais on dit qu'il est incompétent. Je dirais plus qu'il n'a pas été formé. Il n'a pas été formé correctement parce que normalement il n'aurait pas dû être roi. C'est son frère aîné qui aurait dû devenir roi, mais il est décédé et c'est Louis XVI qui devient roi de France alors qu'il n'a pas été formé pour cela. On a tendance à dire que c'est quelqu'un qui est idiot et qui n'a pas du tout d'intelligence. C'est faux, puisque c'est quelqu'un qui avait une intelligence déjà au niveau manuel, on parlerait de technologie aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un qui aimait bien démonter des serrures, c'est quelqu'un qui aimait bien tout ce qui était pratique. Il avait cette compétence intellectuelle et on va dire manuelle et autres, hein, technologiques. C'est quelqu'un qui aimait bien la géographie, qui s'intéressait effectivement aux grandes idées, il a lancé effectivement les grandes expéditions en Amérique du Nord ou autres. Donc c'est pas un idiot, donc contrairement à ce qui est dit. Et on va pas non plus, je dis, expliquer la Révolution française en disant d'un côté le roi était méchant et donc de l'autre côté les Français étaient pas contents. À l'époque, les Français aiment le roi. Et on va attendre, effectivement, on verra quand on rentrera dans la Révolution française, ils ne veulent pas à aucun moment chasser le roi. Donc cette révolution n'est pas encore mise en place. Donc Louis XVI est mal formé, il essaiera de faire de son mieux, mais il fera, en ce qui concerne au niveau de la monarchie, peut-être des erreurs qui vont coûter cher à la monarchie, mais qui va enclencher la Révolution française. Donc, face à ces différentes difficultés, face à tout cela, on va dire que on demande la convocation des États généraux en France. Les États généraux, c'est, on va dire, c'est on va convoquer les députés des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, pour pouvoir discuter des problèmes et pourquoi pas des réformes. Donc Louis XVI lance la convocation des États généraux et met en place des cahiers de doléances. Des cahiers de doléances, ça veut dire que les Français vont faire des cahiers de réclamations, des cahiers de plaintes, on peut dire, hein, des cahiers de réclamations, et ils vont le faire sérieusement. Des groupes vont se réunir. Je ne fais pas le lien avec ce qui s'est passé l'année dernière, mais c'est vrai qu'avec les contextes de ce qui s'est passé l'année dernière en France, il y a eu beaucoup de collègues et d'historiens de la Révolution française leur dire: alors, est-ce qu'on est en pleine révolution? Je n'aurais pas mon avis là-dessus, mais on a reparlé de ces cahiers de doléances. Ces cahiers de doléances, ces cahiers de réclamations, ces cahiers de plaintes, où les Français se réunissaient, et quelqu'un qui savait pour les paysans ou autres rédigeait et disait: voilà, notre bon roi, on voudrait tel changement, on voudrait ci, etc. Donc il y avait vraiment une volonté et une demande de la part de la population, et ils espéraient que le roi les écoute. Convocation des États généraux, ça veut dire que chaque ordre donc va élire ses députés. On a le clergé de chaque endroit, chaque région. Les départements n'existent pas, les régions telles qu'on les connaît, les régions de plan sens géographique, hein, n'existent pas encore à l'époque. Donc chaque région va élire ses députés. On aura les députés du clergé, les députés de la noblesse et les députés du tiers-état. Donc on dit aussi les trois ordres, les trois états. Hein. Petite remarque, on dit tiers-état donc, parce que c'est le troisième tiers, on ne leur a pas donné de nom, donc sans importance peut-être. Donc chacun va élire ses députés et faire remonter les cahiers de doléances pour la convocation des états généraux, pardon, qui est prévue pour mai 1789 à Versailles. Donc voilà pour la situation. Donc on a parlé aujourd'hui des causes. J'essaie de pas trop développer, hein, pour pas trop casser les pieds à ceux qui sont de notre côté. Donc ce qui est pas évident. Après j'essaie d'être clair, mais ce qui est pas forcément le cas de faire un cours sur les ondes. Donc bon, j'espère que bon, et aujourd'hui on n'a pas Thibaut et Chabi, hein, ils sont pas en quatrième, ils sont en troisième. Mais je pense que Riziki a bien écouté. Que bon, Bismarck c'est évident puisque il aime bien l'histoire-géographie. Bon, on a aussi les autres, hein, Marie qui était présente avec nous virtuellement, on a Nathan qui était là. Nathan, non, pas de questions, Nathan, ça sera pour la prochaine fois. Donc, je rappelle que nous sommes passés à la phase 2 du confinement, la phase 2 effectivement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Restez chez vous, les enfants, marmaille, ils tirent votre case, ils sortent pas, fait 2-3 sports, le PS, n'a pas besoin de moi pour faire le PS, vous n'avez pas besoin de la radio, donc pour ça vous faites vos pompes, vous faites tranquillement, mais gardez par contre, gardez la forme, hein, ne bougez à la maison, faites un peu de sport, c'est important parce que il faut bouger, et je parle aussi pour les adultes. Donc restez, il faut bouger en faisant du sport, mais pas bouger en sortant de la maison. Restez chez vous, ne sortez pas. Donc la prochaine fois, donc on se retrouvera. Bon, on essaie de mettre en place des choses nouvelles pour nous, hein. Donc je pense que la prochaine fois, demain, ça sera un cours de cinquième, puisqu'il y a une demande de ce côté aussi. Bon, on essaie de s'adapter, puisque c'est nouveau. Et si vous voulez, y a des commentaires à faire. Vous faites sur Facebook Radio Soleil et aussi sur le site de RIL. Vous mettez un petit commentaire et vous faites remonter et on essaie de s'adapter au fur et à mesure. Bon, j'espère que ça, vous avez pu retenir tout ça. Demain, pardon, pas demain, puisque le prochain cours de quatrième, on fera toujours la Révolution française, et cette fois-ci, on parlera des événements de 1789, on ira un petit peu plus loin, on va rentrer vraiment dans la Révolution française. Donc, marmaille, rase votre case, les parents, restez à la maison. Les parents, on vous remercie effectivement de nous accompagner dans la pédagogie avec vos enfants. Je sais que c'est pas évident pour vous. On vous demande pas de devenir des enseignants. Je sais que c'est pas évident. Seulement d'accompagner. Ne vous mettez pas trop de pression essayer de suivre tranquillement. Je sais que des fois, pour notre bug, des fois, il y a des soucis. Le collège Jules Solès, comme les autres collèges, font le nécessaire. Un grand merci, effectivement, à Laurent Robiffet et d'autres personnes derrière nous hein, qui font tout pour que ça fonctionne correctement. Bon, Daniel Gauvin et autres du collège. Mais je sais que dans les autres établissements, les enseignants, les collègues administratifs, les chefs d'établissement font le nécessaire. Bon, les enseignants sont chez eux derrière leurs écrans, mais il y a certains que j'ai sollicités pour faire des cours à la radio. Ça n'a pas été évident pour eux parce qu'ils disent effectivement, là, ils sont largement sollicités et c'est vrai qu'ils n'ont pas tellement le temps de le faire puisqu'ils donnent des cours aux élèves. Ils doivent aussi corriger certains cours. Et le lycée, c'est la même chose parce que le lycée, il y a des cours aussi en vidéoconférence. Donc, on essaie tous de s'adapter à sa manière, de faire les choses dans son coin. Donc, avec des petits ratés des fois, on fait notre mieux, on s'adapte et on essaie de faire en sorte que de garder un lien pédagogique et un lien radiophonique et social avec vous. Donc, je remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission, la classe 974. Vous étiez avec moi, Alexis, sur Radio Soleil et sur RIL. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle émission.